Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Eugénie Grandet, de Balzac. Le roman paraît en 1834. Le début du roman aura été préalablement publié en 1833 dans l'Europe littéraire sous le titre Eugénie Grandet, histoire de province. En 1843, dans l'édition Furne, Eugénie Grandet prend place dans la comédie humaine entre Ursule Mirouet et Pierrette, dans le premier volume des scènes de la vie de province. Félix Grandet a été tenelier et maire. Grâce à un sens des affaires et une avarice très prononcée, il a réussi à faire fortune en profitant des événements d'une époque instable. Autrefois maire de Saumur, il fait à partir de la seconde moitié des années 1810 fructifier sa grande fortune tout en faisant croire à sa femme, à sa fille Eugénie et à sa servante Nanon qu'ils ne sont pas riches. Les habitants de Saumur, où chacun estime la fortune du père Grandet, voit en Eugénie Grandet le plus beau parti de la ville et deux notables la courtisent ardemment. Il y a le banquier des Grassins et sa belle-femme mondaine, Madame des Grassins. Elle voit déjà son fils, Adolphe, comme le futur mari d'Eugénie. De plus, le notaire et l'abbé Cruchot s'efforcent de marier leur neveu, Bonfons Cruchot, à Eugénie. Celle-ci, d'une innocence réelle et d'une naïveté prononcée, ne se doute de rien jusqu'au jour où arrive son cousin, Charles Grandet. Eugénie et Charles se promettent un amour perpétuel, mais le départ de Charles est un rude moment pour Eugénie. Honoré de Balzac est le fils de Bernard-François Balsa, secrétaire au Conseil du Roi, directeur des vivres et des approvisionnements aux armées, adjoint au maire et administrateur de l'Hospice général de Tours, et d'Anne-Charlotte Laure Salambier, issue d'une famille parisienne de passementiers du quartier du Marais. Honoré est l'aîné des quatre enfants du couple. De 1807 à 1813, il est pensionnaire au Collège des Oratoriens de Vendôme. De juillet à novembre 1814, il est externe au collège de Tours. Son père ayant été nommé directeur des vivres pour la première division militaire, la famille déménage à Paris et s'installe dans le quartier du Marais. Le 4 novembre 1816, le jeune Balzac s'inscrit en droit. En même temps, il suit des cours à la Sorbonne. Il fréquente aussi le Muséum d'histoire naturelle où il s'intéresse aux théories de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. Il exerce le métier de clerc de notaire. Il passe avec succès le premier examen du baccalauréat, en droit, le 4 janvier 1819, mais il ne se présentera pas au deuxième examen et ne poursuivra pas jusqu'à la licence. Son père, alors âgé de 73 ans, ayant été mis à la retraite, la famille n'a plus les moyens de vivre à Paris et déménage à Villeparisis. Le jeune Balzac ne veut pas quitter Paris et dit vouloir se consacrer à la littérature. Ses parents le logent alors dans une mansarde et lui laissent 2 ans pour devenir écrivain et un budget annuel d'une centaine de francs. En dépit de leurs défauts, les œuvres de jeunesse sont publiées de 1822 à 1827. Lâché par ses associés, Balzac se retrouve en mai 1826 avec une énorme dette. Il commence dès lors à être un auteur connu. Il est introduit au salon de Juliette Récamier où se retrouve le gratin littéraire et artistique de l'époque. Il cherche alors à gagner de l'argent dans le journalisme. Les premiers succès de Balzac sont les Chouans en 1829 et la Peau de Chagrin en 1831. Le Père Goriot, commencé en 1834, marque l'étape la plus importante dans la construction de son œuvre. Les publications se succèdent ensuite à un rythme accéléré. Le Lys dans la vallée paraît en 1835-36, puis Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau en 1837, suivi de la Maison Nucingen en 1838, Le curé du village et Béatrix en 1839, Ursule Mirouet et une ténébreuse affaire en 1841, La Rabouilleuse en 1842, la rédaction d'Illusion perdue s'étend de 1837 à 1843, tandis que celle de Splendeur et misère des courtisans va de 1838 à 1847. Paraissent encore deux chefs-d'œuvre, La Cousine Bête en 1846 et Le Cousin Ponce en 1847. Au total, La Comédie humaine comptera 90 titres publiés du vivant de l'auteur. Grâce à la précision et à la richesse de ses observations, la Comédie humaine a aujourd'hui valeur de témoignage socio-historique et permet de suivre la montée de la bourgeoisie française de 1815 à 1848. Travailleur forcené, fragilisant par ses excès une santé précaire, endetté à la suite d'investissements hasardeux et d'excès somptuaires, fuyant ses créanciers sous de faux noms dans différentes demeures, Balzac a aussi eu de nombreuses liaisons amoureuses avant d'épouser en 1850 la comtesse polonaise Amska, qu'il avait courtisée pendant 17 ans. Honoré de Balzac entre en agonie le dimanche 18 août 1850 dans la matinée et meurt à 23 heures. Victor Hugo, qui fut son ultime visiteur, a rendu un témoignage émouvant et précis sur ses derniers moments. Lors des funérailles, le 21 août 1850, au cimetière du Père-Lachaise, division 48, la foule était imposante et comptait notamment de nombreux ouvriers typographes. Alexandre Dumas et le ministre de l'Intérieur, Pierre-Jules Baroche, étaient aussi près du cercueil, avec Victor Hugo qui prononça l'oraison funèbre. Il avait 600 arpents de bois récemment achetés qu'il faisait surveiller par le garde d'un voisin, auquel il promettait une indemnité. Depuis cette acquisition seulement, il mangeait du gibier. Les manières de cet homme étaient fort simples. Il parlait peu. Généralement, il exprimait ses idées par de petites phrases sentencieuses et dites d'une voix douce. Depuis la Révolution, époque à laquelle il attira les regards, le bonhomme bégayait d'une manière fatigante, aussitôt qu'il avait à discourir longuement ou à soutenir une discussion. Ce broudoyement, l'incohérence de ses paroles, le flux de mots où il noyait sa pensée, son manque apparent de logique attribué à un défaut d'éducation, étaient affectés et seront suffisamment expliqués par quelques événements de cette histoire. D'ailleurs, quatre phrases exactes, autant que des formules algébriques, lui servaient habituellement à embrasser, à résoudre toutes les difficultés de la vie ou du commerce. « Je ne sais pas, je ne puis pas, je ne veux pas, nous verrons cela. » Il ne disait jamais ni oui ni non, et n'écrivait point. Lui parlait-on, il écoutait froidement, se tenait le menton dans la main droite, en appuyant son coude droit sur le revers de la main gauche, et se formait en toute affaire une des opinions desquelles il ne revenait point. Il méditait longuement les moindres marchés. Quand, après une savante conversation, son adversaire lui avait livré le secret de ses prétentions en croyant le tenir, il lui répondait « Je ne puis rien conclure sans avoir consulté ma femme. » Sa femme, qu'il avait réduite à un ilotisme complet, était en affaire son paravent le plus commode. Il n'allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner. Il ne faisait jamais de bruit et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un aspect constant de la propriété. Néanmoins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa tenue circonspecte, le langage et les habitudes du tonnelier percé, surtout quand il était au logis, où il se contraignait moins que partout ailleurs. Au physique, Grandet était un homme de 5 pieds, trapu, carré, ayant des mollets de 12 pouces de circonférence, des rotules noueuses et de larges épaules. Son visage était rond, tanné, marqué de première vérole. Son menton était droit, ses lèvres n'offraient aucune sinuosité et ses dents étaient blanches. Ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice que le peuple accorde au basilic. Son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérances significatives. Ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie faite sur M. Grandet. Son nez gros, par le bout, supportait une loupe veinée que le vulgaire disait, non sans raison, pleine de malice. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur, l'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice et sur le seul être qui lui fut réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. Attitude, manière, démarche, tout en lui d'ailleurs attestait cette croyance en soi que donne l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique de mœurs faciles et molles en apparence, M. Grandet avait-il un caractère de bronze, toujours vêtu de la même manière, qui le voyait aujourd'hui, le voyait tel qu'il était depuis 1791. Ses forts souliers se nouaient avec des cordons de cuir. Il portait en tout temps des bras de laine drapée, une culotte courte de gros drap marron à boucles d'argent, un gilet de velours à raies alternativement jaune et puce, boutonné carrément un large habit marron à grands pans, une cravate noire et un chapeau de quaker. Ses gants, aussi solides que ceux des gendarmes, lui duraient 20 mois, et pour les conserver propres, il les posait sur le bord de son chapeau à la même place par un geste méthodique. Saumur ne savait rien de plus sur ce personnage. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.